Affaires étrangères, Christine Okrent, France Culture, en partenariat avec le magazine Courrier International.
Bonjour à tous. L'accouchement a été laborieux, mais l'équipe est enfin prête. La nouvelle Commission européenne, présidée par Ursula von der Leyen, se présentera mercredi prochain devant le Parlement européen pour obtenir son approbation finale, et elle se mettra au travail le 1er décembre. Que faut-il en attendre dans les 5 ans qui viennent ? Plus que jamais, les chaos du monde, l'accélération technologique, le changement climatique, le duel entre les États-Unis et la Chine, les incertitudes du Brexit, les fissures au sein même de l'Union, comme dans nos démocraties, sont autant de défis que doit relever notre continent. Le processus européen a beau être inachevé, imparfait, souvent mal compris, tiraillé entre des intérêts nationaux et transnationaux contradictoires, ce sont bien les mêmes enjeux qui s'imposent aux pays membres et aucun seul n'en détient la clé. La présidente de cette nouvelle commission veut une commission géopolitique capable, autrement dit, d'affirmer une Europe puissance et pas seulement un grand marché. Les États membres vont-ils lui en donner les moyens alors que l'unanimité reste la règle ? Les équilibres très politiques entre les personnalités qui la composent et leur portefeuille seront-ils un frein à son efficacité ? Le numérique, la défense, l'élargissement, la question migratoire, autant de chantiers sur lesquels Paris et Berlin ne sont plus en phase. Où trouver les ressorts de cette nouvelle dynamique que souhaitent chacun à sa façon Emmanuel Macron, Angela Merkel et certains de leurs partenaires. C'est ce que nous allons explorer ce matin grâce à vous. Laurence Daziano, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en économie à Sciences Po Paris et membre du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique. Patrick Martin-Génier, vous enseignez à Sciences Po Paris, vous aussi, et à l'INALCO, merci d'être parmi nous. Sébastien Maillard, vous dirigez l'Institut Jacques Delors. Par téléphone, tout à l'heure, nous aurons avec nous Henrik Utterwede, qui est chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Et j'ai pu interroger sur ces sujets d'intérêt commun Tony Blair, l'ancien Premier ministre britannique, ancien Premier ministre travailliste de 1997 à 2007, qui était de passage à Paris au début de la semaine. Patrick Martin-Génier, on va donc voir mercredi les applaudissements, les sourires, les photos de cette nouvelle famille, de grandes ambitions qui vont être réitérées par Madame von der Leyen. Mais en fait, on a vu à quel point la gestation de cette nouvelle équipe a été difficile, avec 3 commissaires retoqués, dont Sylvie Goulard, la française. Et maintenant, enfin, avec un mois de retard, ils vont se mettre au travail.
Voilà, il y a de très grands défis. Il faut dire effectivement que, vous l'avez dit, l'accouchement a été douloureux de cette Commission européenne. Il faut savoir une chose, c'est que c'est l'exécutif européen. C'est donc cet organisme qui est censé orienter pendant les 5 années qui viennent la politique européenne. Il y a de grandes ambitions. Le problème de cette Commission européenne, ce n'est peut-être pas la première fois, mais c'est la première fois où c'est aussi prononcé, c'est qu'elle a d'emblée, elle a eu un problème de légitimité parce que Madame von der Leyen, outre le fait qu'elle a des qualités propres, a été sortie au dernier moment du chapeau, si j'ose dire, au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement, parce qu'Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler de Manfred Weber, et donc par conséquent,
donc, un autre Allemand, même parti politique, donc
voilà, et qui s'était opposé, c'est peut-être son tort originel, s'était opposé à Emmanuel Macron, notamment lors des listes transnationales qui avaient été proposées pour le Parlement européen, et donc Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler de Manfred Weber, d'une part, et d'autre part, il ne voulait pas entendre parler de ce qu'on a appelé la pratique du Spitzenkandidat, si je peux me permettre, c'est-à-dire le candidat qui avait été désigné par des partis politiques, en l'espèce les démocrates chrétiens, qui sont sortis tout de même vainqueurs. Et donc, cette pratique n'a pas reçu l'aval du président de la République, qui fait qu'il n'a pas voulu entendre parler de Manfred Weber, qu'il accusait par ailleurs de manquer d'ambition et de compétences. Et donc, il souhaitait quelqu'un d'autre.
Pas totalement faux, sachant que M. Weber est un élu bavarois, mais enfin qui avait aussi manifesté vis-à-vis de l'extrême droite autrichienne quelques tendresses, dirons-nous. Oui. Et bon, et quels que soient ses mérites, c'est pas quelqu'un qui, contrairement à Mme van der Leyen, avait une expérience ministérielle au niveau fédéral en Allemagne.
Alors Mme van der Leyen présentait un autre intérêt, c'était d'avoir été ministre de la Défense, et vous savez qu'Emmanuel Macron et les autres pays veulent absolument pousser les feux, si vous me permettez l'expression, de la défense européenne, notamment alimenter le Fonds européen de défense et avoir une véritable ambition en matière de défense européenne, précisément au moment où le président des États-Unis demande aux pays membres de l'OTAN de faire plus en termes de budget et où Emmanuel Macron précisément a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Donc là, il faut relancer l'Europe de la défense et je crois que effectivement le couple, on va dire Macron-Von der Leyen et avec Angela Merkel va avoir un rôle très important sur ce point.
Ce qu'on a vérifié aussi, c'est à quel point le Parlement européen, qui a toujours été une institution très méconnue, et notamment chez nous, en France, ce Parlement européen est aujourd'hui beaucoup plus complexe politiquement. Il n'y a plus les deux grandes familles qui faisaient leurs affaires entre eux, c'est beaucoup plus émietté. Et donc, il y a un jeu politique plus complexe. Et ça, c'est tout bénéfice pour la démocratie en Europe.
Je crois en effet que c'est tout bénéfice, parce que le Parlement européen doit être un Parlement, il doit être là pour contrôler un exécutif, mais vous le dites tout à fait justement, les démocrates chrétiens c'est 182 voix, c'est environ 158 pour les sociaux-démocrates et à eux deux, ils n'ont pas la majorité au Parlement européen, ce qui fait que les groupes charnières comme Renaissance Europe précisément, qui ont à peu près une centaine de députés, vont jouer un rôle charnière très important, ce qui va obliger les différents groupes politiques à négocier des textes, des propositions de directives et des règlements, sans exclure naturellement également une possibilité de nuisance de la part des groupes d'extrême droite qui ont un rôle également des sièges très importants au niveau du Parlement européen. Donc ça va obliger à un compromis, à une meilleure discussion, et au final je pense que cela sera bon pour la démocratie européenne.
Et il y a aussi une autre institution qui est le Conseil, dont le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, qui en fait est la chambre la caisse de résonance, en quelque sorte, des compromis souvent nocturnes auxquels parviennent les plus hauts responsables des 27 États membres. Enfin, 28 États membres, puisque en principe, le Royaume-Uni est toujours là.
Vous parlez des compromis nocturnes, vous avez tout à fait raison, parce que ça devient de plus en plus difficile de décider, même sur des choses qui, a priori, peuvent faire l'objet d'une décision à la majorité. C'est de plus en plus difficile de se mettre d'accord sur 27 États membres, notamment, on va bien le voir, sur la politique des migrations. C'est quelque chose qui est très sensible. L'économie, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et sur la position en matière de politique étrangère. Mais il faut savoir une chose, c'est que depuis quelques années, il y a véritablement, lorsqu'on regarde l'évolution institutionnelle de l'Union européenne, une concurrence entre le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement et la Commission européenne. C'est à qui, finalement, on prendra une sorte de pouvoir exécutif et qui prendra le dessus. Et les chefs d'État et de gouvernement souhaiteraient prendre le dessus sur la Commission européenne, que certains voudraient ravaler à une sorte d'organisme technique, alors qu'en réalité, au terme des traités, la Commission européenne, c'est véritablement l'exécutif européen.
Vous faisiez allusion à propos de l'OTAN à l'entretien retentissant accordé par le président de la République au magazine britannique The Economist il y a maintenant 15 jours, 10 jours. Dans le même entretien, Emmanuel Macron disait « L'Europe, l'Union européenne est au bord du précipice, au bord d'une crise existentielle. J'ai demandé à Tony Blair s'il était d'accord avec ce diagnostic extrêmement sévère d'Emmanuel Macron. » Il faut se souvenir que Tony Blair aurait pu devenir le président de la Commission européenne s'il ne s'était pas engagé, comme on le sait, dans la guerre en Irak. Tony Blair.
J'aurais tendance à être d'accord avec la vision du président Macron. L'Europe est en crise perpétuelle d'une sorte ou d'une autre, elle l'a toujours été. Mais d'une manière ou d'une autre, elle survit aux crises. Et les forces qui maintiennent ensemble l'Europe sont extrêmement puissantes. Mais dans ce monde qui se développe avec les États-Unis et la Chine comme les deux superpuissances, peut-être rejoint par l'Inde plus tard, si l'Europe veut tenir son rang à la table et être influent, protéger ses valeurs, ses intérêts, il faut que l'Europe fasse des changements radicaux de façon plus efficace. en tant qu'organisme international. Désastre, c'est peut-être un grand mot, mais je ne suis pas certain que nous allions vers un désastre. Mais nous pourrions être dans une situation en Europe où nous devons de moins en moins pertinents. Et comme le monde se développe vers ces deux superpuissances, l'Amérique et la Chine, qui sont de plus en plus dominants, et la relation entre les deux deviendra la principale relation géopolitique, l'Europe doit comprendre à quel point le monde change pour pouvoir être avancée. Et le problème avec l'Europe, c'est la contradiction avec le cas du Brexit. Le problème avec l'Europe, c'est un assemblage d'États indépendants qui n'ont pas renoncé à leur indépendance, à leur souveraineté. Et une activité collective avec l'Europe, c'est toujours très, très difficile. Et ça va rester ainsi pendant un certain temps. Mais là où je pense que le président Macron a tout à fait raison, c'est de dire que le but devrait être que l'Europe soit puissante dans certains domaines clés. L'énergie, la défense, l'environnement, la technologie, tous les domaines où pour l'instant nous n'y sommes pas du tout. Il faut vraiment que notre économie soit plus concurrentielle. Il faut s'assurer que l'Europe maximalise sa puissance collective. Ce que nous ne le faisons pas, nous ne le faisons pas du tout, c'est clair. Mais c'est franchement là où la perte de Grande-Bretagne pour l'Europe serait un désastre pour la Grande-Bretagne et une grande perte pour l'Europe.
Sébastien Maillard, la Commission elle-même, donc on sait que chaque État désormais nomme un commissaire, mais dans cette nouvelle Commission, il y a une architecture différente, puisque il y a évidemment la présidente, mais il y a trois vice-présidents exécutifs. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une manière d'insister sur trois secteurs prioritaires, qui correspondent d'ailleurs à peu près à ceux que vient d'énumérer Tony Blair.
C'est en effet une nouveauté dans l'organisation de cette commission. On est habitué avec M. Barroso, M. Juncker à une commission très présidentielle. Et là, il y a effectivement un nouveau niveau hiérarchique avec en plus des poids lourds politiques à leur tête. Je pense à Margrethe Vestager pour le numérique, à Frans Timmermans pour le Green Deal, ce qu'on appelle donc ce pacte vert pour décarboniser nos économies, et puis Valdis Dombrovskis pour ce qui est, grosso modo, tout ce qui est enjeux financiers.
Et oui, donc, ce qui n'est pas négligeable, parce que donc lui, il est letton, c'est un conservateur.
Oui, ancien Premier ministre letton. Oui.
Voilà, mais il est là aussi pour rassurer les pays aux économies lourdes, à propos du portefeuille de l'économie qui a été confié à un Italien, enfin l'ancien Premier ministre italien.
Monsieur Paolo Gentiloni, en effet, il y a d'ailleurs dans cette crise d'équilibre, les trois vice-présidents exécutifs que j'ai nommés sont les trois issus de, entre guillemets, petits pays. Le Danemark pour Mme Vestager, les Pays-Bas pour M. Timmermans, et l'Estonie, donc effectivement, la Lettonie, pardon, donc effectivement, c'est un équilibre par rapport aux deux grands, France-Allemagne, qui sont dans la pièce. Mais c'est important aussi pour le fait que ces vice-présidents exécutifs auront la mainmise directement sur des directions générales de la Commission, et on aura peut-être une Commission européenne avec à sa tête Mme von der Leyen, mais une sorte de directoire avec ces trois vice-présidents exécutifs, et donc une nouvelle façon de travailler, puisque on sait bien que les enjeux sont très liés. Lorsqu'on parle de Green Deal, de pacte vert, il y a aussi une dimension sociale, il y a une dimension innovation, il y a une dimension aussi liée à la défense. Donc effectivement, tout ça doit être mis en musique, et donc c'est cette capacité de collective entre les quatre qui sera aussi testée lorsque cette commission va entrer en fonction.
Alors évidemment, on a énormément parlé, et pour cause, du portefeuille français, négocié par Emmanuel Macron lui-même, donc un portefeuille énorme qui est maintenant coiffé, dirigé par Thierry Breton. Et donc ça va de la défense, donc ce nouvel enjeu dont on parlait dès le début de cette émission, l'industrie...
En effet, il aura trois directions générales avec lesquelles il travaillera, une future direction générale de la défense, mais effectivement, il a tout le marché intérieur qui est le portefeuille classique dans une commission, également l'audiovisuel, le tourisme, le spatial. Donc c'est effectivement un super portefeuille dont il hérite, et ce sera une occasion effectivement de mettre aussi en musique tous ces dossiers qui sont très liés. On parle de l'industrie. Il faudra voir aussi comment il arrive à s'entendre avec sa collègue Madame Vestager sur le droit de la concurrence européen, puisque on veut une commission géopolitique, une commission qui affirme une Europe puissance vis-à-vis de nos partenaires ou rivaux que sont la Chine ou les États-Unis. Comment faire en sorte que notre droit de la concurrence reste respecté, l'Europe se définit par ses règles, mais aussi qu'on arrive à s'affirmer, à assurer un leadership européen dans le numérique, dans tous ces dossiers.
Alors, dans son tout premier discours d'intronisation devant le Parlement européen, Madame von der Leyen a affiché cette ambition de diriger une commission géopolitique. C'est une expression qui en français sonne un peu bizarrement, mais on voit bien ce que cela veut dire, une Europe puissance. J'ai demandé à Tony Blair s'il pensait lui aussi qu'il était temps que l'Europe ne soit pas seulement un géant commercial, mais aussi une puissance dans cet échiquier de plus en plus troublé du monde. Tony Blair.
Je pense que l'ambition telle que définie par von der Leyen, c'est la bonne. Le défi, c'est que l'Europe le réalise dans une situation où il y a des intérêts conflictuels et où l'Europe peut parfois être très lente, avec beaucoup de bureaucratie avant d'agir. Mais l'ambition, c'est la bonne. Mais pour le faire, il faut prendre des actions claires et décisives. Si on prend le domaine de la technologie, par exemple, nous devrions poser cette question en Europe. Pourquoi se fait-il que le domaine existant des technologies, des innovations, que tout cela vienne d'Amérique, et à l'avenir, elles viendront d'Amérique ou de Chine, mais personne ne dit qu'elles viendront d'Europe. Pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour le changer ? L'Europe tente à regarder cette question de la technologie d'un point de vue, réguler les textes. On le voit d'un point de vue politicien, mais la seconde chose qui se produit en Europe, au XXIe siècle, c'est l'équivalent de la révolution industrielle du XIXe siècle. En fait, l'Europe devrait se poser la question, comment pouvons-nous être un moteur en termes d'innovation? Ça vous donne un agenda politique différent de celui qui consiste à se poser la question, comment est-ce que l'on peut maîtriser les grandes compagnies technologiques. Si l'Europe veut réussir, il faut vraiment une analyse politique très profonde sur ce qui est nécessaire. On peut dire la même chose de la défense. C'est lorsque j'étais Premier ministre, avec le président de l'époque, Chirac, on a commencé l'Europe de la défense. Et si on veut que l'Europe de la défense fonctionne, il faut prendre des décisions solides. Comment maximaliser la capacité de défense de l'Europe? Avoir l'ambition, c'est bien, c'est juste, mais en tant que début.
Laurence Daziano, vous êtes économiste. Quand il s'agit de relever les défis technologiques, où l'on se dit, quand on voit la puissance des GAFA, que véritablement l'Europe est très en retard, est-ce que il peut y avoir un saut qualitatif, en quelque sorte, pour que l'Europe investisse davantage, avec cette notion d'Europe puissance, dans l'intelligence artificielle, dans la gestion des données en particulier? Est-ce qu'il y a moyen, en quelque sorte, de passer à l'étape d'après?
Effectivement, l'Europe a manqué la révolution du début des années 2000 sur tout ce qui était Internet. Et là, on se dit qu'il ne faudrait quand même pas manquer la révolution, notamment de l'intelligence artificielle, puisque on voit de plus en plus que tout ce qui va être objet connecté va être dans notre vie. Alors, il y a beaucoup de liquidités, on en parlait, en Europe aujourd'hui, même dans le monde, du fait des politiques monétaires accommodantes, et à investir. Et donc, ces
investissements... Donc, même en Europe, parce qu'on dit toujours, on a des start-up, mais quand il faut trouver du financement, elles vont aux États-Unis.
Il y a d'une partie le financement, et ça, elles pourront commencer à l'avoir en Europe, mais il y a aussi tout le côté réglementaire. On en parlait tout à l'heure, l'Europe qui se voit surtout comme un géant réglementaire, mais c'est aussi le reflet des pays dont l'Europe est constituée. Et c'est plutôt ça qui va être le frein pour les start-up. C'est une espèce de culture commune que vous n'avez pas aux États-Unis. C'était un petit peu ce que vendait au départ la Silicon Valley. Vous venez, vous avez votre idée, vous la développez, et il n'y a pas de frein. Et c'est plutôt ça qui, aujourd'hui, pourrait restreindre la volonté des start-up. Pour ce qui est de tout ce qui est gestion des données, régulation des GAFA, pour venir sur ce sujet-là, ça ne peut être traité qu'au niveau européen. Ça fait partie de ces grands défis que l'Europe ne peut traiter qu'à son niveau. C'est plus au niveau des États. On est trop petit. On est entre les États-Unis et la Chine, dans un monde très évolutif qui devient de plus en plus morcelé. Si l'Europe veut exister, il faut vraiment qu'elle ait ses politiques communes. L'Europe n'est vraiment forte que quand elle développe ses politiques fédérales. On l'a vu pour la monnaie, on le voit pour la concurrence, on le voit pour le commerce. Donc c'est au niveau européen que dans ces domaines-là, et notamment dans les infrastructures, on va être au niveau à la taille.
Et c'est là où Madame Vestager, qui est donc particulièrement puissante dans cette nouvelle architecture de la Commission européenne, elle a un bilan tout à fait impressionnant, parce que par le biais de la concurrence, qui était son portefeuille précédent, elle a réussi à lourdement taxer Google, à gêner quand même Facebook, mais en passant toujours par le biais de la concurrence et de la fiscalité. Désormais, elle aura un champ d'action plus large.
Alors effectivement, c'est une des personnalités de l'ancienne commission qui est restée dans la nouvelle et qui a un vrai bilan à son actif, un bilan qui se veut fédéral. Elle tient tête même au président des États-Unis qui, dans ses tweets, on a dit ce qu'il en pensait.
Oui, il a dit il n'y a pas de pire ennemi de l'Amérique que Madame Vestager.
C'est effectivement au niveau de ces politiques fédérales que l'Europe existera. Je crois que c'est Sigmar Gabriel qui a dit l'Europe est un herbivore dans un monde de carnivores géopolitiques.
Donc Sigmar Gabriel, qui est donc l'ancien ministre des Affaires étrangères allemand,
ouais. Qui a dit ça. Et si on veut une commission qui est vraiment géopolitique, il faut aussi qu'elle ait en tête ces politiques fédérales. Si on veut vraiment exister et ne pas être pris entre le modèle américain et le modèle chinois, mais avoir un vrai modèle européen, ce sont ces politiques qu'il faut mener. Et effectivement, Madame Vestager a été à la pointe dans la commission précédente. Et dans cette commission, elle porte aussi cette idée d'avoir un élan fédéral.
Mais on lui a aussi beaucoup reproché d'avoir refusé la fusion Alstom-Siemens au nom de la réglementation, encore une fois, et de la politique de la concurrence. Est-ce qu'il faudrait assouplir ces règles de concurrence pour que l'Europe soit capable justement d'avoir, sinon des géants, mais en tout cas quelques poids lourds, capables de s'imposer sur le plan de la concurrence internationale et pas seulement par rapport à des critères intra-européens?
Voilà. Madame Vestager, on lui a reproché ça, mais en fait, elle n'a fait qu'appliquer les règles européennes. Donc, c'est pas de la faute de Madame Vestager. C'est vraiment, comme vous dites, il faut changer les règles européennes et prendre en compte que le marché n'est plus simplement le marché européen, mais que c'est un marché qui est mondial et que quand on veut faire un champion européen, c'est pas par rapport à des champions nationaux, mais c'est parce qu'on est en concurrence avec des champions chinois qui, de toute façon, veulent rentrer sur le marché européen. Donc là, ce sont plus les règles, mais on le voit, si on veut passer à des vraies politiques qui sont fédérales, si on veut passer à des règles qui permettent d'imposer l'Union européenne comme une puissance, et encore une puissance moyenne au niveau mondial, il va falloir changer des règles. Les règles de la concurrence vont être à adapter, mais il va y avoir aussi les règles des instances européennes. Est-ce qu'on peut toujours être à l'unanimité à 27 quand il va falloir décider de grandes politiques fédérales? Les grandes politiques fédérales, donc au-delà de la défense dont on a parlé, ça va être quand même la politique migratoire. On a quand même une bombe à retardement en Afrique. On va avoir 2 milliards d'Africains en 2050. Comment on fait pour gérer? Parce que là, c'est pas 1 million de réfugiés qui vont arriver. Donc, ce sont toutes ces politiques, les politiques sur les infrastructures, les grandes industries de réseau, l'électricité. On le disait tout à l'heure quand on parlait des start-up. On est dans des sociétés qui sont de plus en plus connectées. On a de plus en plus d'objets, mais il faut de l'électricité. Le réseau d'électricité, il s'arrête pas à la frontière de chaque pays. Tout est interconnecté. Ce sont ces politiques-là aujourd'hui qu'il faut mener au niveau européen.
Une question encore à Tony Blair, la dernière pour ce matin. Je lui ai demandé jusqu'à quel point l'Europe serait un jour, si elle ne rattrape pas cet immense retard dans les domaines de la technologie, jusqu'à quel point l'Europe serait un jour condamnée à avoir à choisir entre les États-Unis et la Chine au cas où il y a un découplage, en quelque sorte, de ces univers technologiques. Sa réponse.
Yes, absolutely. So there's one general question. Il y a une question générale en ce qui concerne la Chine. En Occident, Nous sommes en danger de prendre une décision stratégique par accident concernant la Chine, pas par choix, par conception. Est-ce qu'on va vers un découplage ou est-ce que l'on va en faveur de ce qu'on pourrait appeler une hybridation de concurrence et coopération? Je pense qu'il faut prendre cette seconde chose et non pas le découplage. Le découplage est excessivement dangereux, mais nous sommes en danger de devoir y glisser. Et l'adversité des États-Unis vis-à-vis de la Chine est immense. Et ça, vraiment, c'est un sujet de problème à venir. Quand on en vient à la technologie, la vérité, c'est que nous n'avons pas utilisé au maximum les actifs que nous avons en Europe. Nous avons les capacités, à travers nos universités, de coopérer beaucoup plus, parce que la plupart des grandes technologies et des innovations viennent des universités. Nous n'avons pas suffisamment coopéré dans ce domaine. On n'a pas mis les bons cadres réglementaires. Je pense qu'il y a ici véritablement une raison de faire revivre les relations transatlantiques à travers un cadre autour de la technologie, entre les États-Unis et l'Europe. Ça nous donnerait vraiment un avantage dans cette position. Mais vous avez raison. Si nous n'agissons pas de façon positive et ne prenons pas à corps cette situation, on devra faire un choix entre les États-Unis et la Chine et ça sera très inconfortable pour nous.
Henrik Outerwede, bonjour. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous travaillez à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. On a vu ces derniers jours la volonté allemande en matière d'intelligence artificielle de mettre sur pied ce qu'un ministre allemand appelle un Airbus de l'intelligence artificielle. Autrement dit, un chantier commun avec la France pour que l'Europe avance, encore une fois, dans ce domaine qui devient de plus en plus stratégique. Jusqu'à quel point, selon vous, ce nouvel Airbus, si j'ose dire, a des chances de décoller?
Mais je pense que pour ce qui concerne la coopération franco-allemande, et puis élargie peut-être à d'autres pays, dans ce domaine, je pense que la volonté est là des deux côtés. Le potentiel aussi, mais bon, de là à prédire quel espace de temps les choses évolueront et déboucheront sur des produits ou des projets palpables, ça c'est une autre paire de chaussures, hein. Donc je pense qu'on en est au début avec donc la reconnaissance de l'importance de la thématique, la volonté politique réitérée d'ailleurs par le ministre allemand de l'économie, Peter Altmaier, de faire une politique, de lancer une politique industrielle, notamment avec la France. Et puis, bon, on attend un peu la suite. Pour l'instant, je ne peux pas vous en dire davantage.
Alors, on attend la suite sur beaucoup de choses, et notamment la défense. On en parlait au début de cette conversation. Madame von der Leyen, ancienne ministre de la Défense en Allemagne, les ambitions du président français pour que l'Europe affiche bien davantage une forme d'autonomie en matière de défense avec un fonds d'intervention européen. On sait à quel point les propos d'Emmanuel Macron concernant l'OTAN en état de mort cérébrale ont pu choquer ailleurs en Europe, et peut-être en France aussi d'ailleurs, mais surtout en Allemagne. Est-ce que ce diagnostic abrupt à la française risque de freiner, paradoxalement, des ambitions communes en matière de défense?
Bah écoutez, je pense que ces propos n'étaient pas vraiment utiles pour en Allemagne, parce que il donne l'impression que le président veut nous mettre un peu devant le choix, soit d'une Europe autonome en matière de défense, soit donc d'être le suiveur des États-Unis et dans une alliance transatlantique. Et s'il y a une chose que la classe politique allemande n'aime pas du tout, mais alors vraiment pas du tout, c'est d'être mis devant ce choix et de se prononcer pour l'Europe et contre l'OTAN ou vice-versa. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment aidé. La question est déjà très, très difficile parce que le gouvernement allemand est partagé là-dessus. Il y a la volonté de la nouvelle commissaire, von der Leyen, vous l'avez dit. Il y a aussi la volonté de la nouvelle ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui est aussi secrétaire générale de la CDU. Et il y a une prise de conscience de l'Allemagne qu'il faut faire davantage pour rendre l'Europe de la Défense crédible. Mais les propos d'Emmanuel Macron, franchement, n'ont pas vraiment aidé à faire évoluer la politique allemande sur ces rails qui pourtant seront importants pour l'Europe. Et je pense qu'il y a une prise de conscience grandissante en Allemagne qu'il faut faire davantage d'efforts pour créer une Europe de la défense.
Quelles sont les réactions et quelle est votre propre analyse lorsque Emmanuel Macron, toujours dans le même entretien, bravo Sophie Peder de The Economist, qui avait véritablement réussi le coup journalistique de l'année, plus sérieusement, le président français met en cause la règle des 3% du déficit public imposé donc par le traité de Maastricht, une règle d'ailleurs, il faut s'en souvenir, voulue par la France. Et là, il dit, il faut changer ces règles budgétaires puisque on entre dans une période de moindre activité économique, sinon même de récession. Et sinon, dit-il, si on ne le fait pas, on prépare la prochaine crise. Comment est-ce que c'est interprété en Allemagne ?
Alors vous savez, ce débat a deux côtés. Hein, techniquement, ce débat est vieux. Il y a beaucoup de nombreux d'économistes, y compris en Allemagne, qui pensent que cet objectif de 3% en soi est un peu un peu stupide même, et qu'il faudrait peut-être rendre l'objectif d'une soutenabilité budgétaire plus intelligent. Cela dit, si mettre en cause cet objectif, c'est mal vu en Allemagne parce que il y aura des soupçons que la France veut tourner le dos à une politique du sérieux budgétaire. Et là encore, je pense que quand il y a crise ou menace de crise conjoncturelle, en France et dans d'autres pays, on est plus prompte à appeler à une politique contre-cyclique, comme on dit, donc de relance conjoncturelle. En Allemagne, on est moins favorable à tout cela, donc on attendra plus longtemps avant d'agir.
Mais je vous interromps, Henrik, mais il semble quand même qu'il y ait une bonne partie du patronat allemand, et notamment les moyennes entreprises, qui appellent précisément à une relance une relance budgétaire de façon à ce que l'économie allemande réagisse au cycle actuel.
Oui, il y a cette évolution du débat, une partie du patronat de l'industrie, des forces industrielles, dit qu'il faut, on a tellement de choses à faire pour assurer notre avenir, donc il faut investir, il faut peut-être aider à investir côté public, côté industriel, pour préparer l'avenir. Oui, ça, et puis je pense que ça sera la porte d'entrée pour que l'Allemagne agira davantage que dans le passé. Le ministre en présence vous répondra que on fait pas mal de choses, donc les plans d'investissement public sont là et ils vont porter. Mais ce débat peut évoluer parce que c'est une partie de l'économie, des forces économiques elles-mêmes qui le demandent. Mais là encore, si on le met sous le sigle, est-ce que l'objectif de 3% est bon ou non, moins bon, c'est pas la bonne entrée pour faire évoluer le débat en Allemagne. Il faut plutôt parler utilité, investissement, innovation, préparer l'avenir. C'est un langage que les pouvoirs politiques allemands sont plus auxquels ils sont plus sensibles qu'à la mise en cause de l'objectif des 3%.
Henrik Outhoorvelde, restez avec nous, si vous le voulez bien, pendant quelques minutes encore, le temps que Hamdam Mostafavi, bonjour Hamdam, vous êtes rédactrice en chef à Courrier International, et vous allez nous raconter l'histoire de ces personnages qui incarnent désormais cette nouvelle commission européenne, et on commence évidemment par Madame von der Leyen.
Oui, évidemment, c'est la première femme à la tête de la Commission européenne. Elle est aujourd'hui âgée de 60 ans et c'est une proche d'Angela Merkel, issue comme elle de la CDU, le parti chrétien-démocrate allemand. Alors, il faut rappeler qu'elle est médecin de formation et qu'elle a occupé en Allemagne des postes de ministre de la Famille, du Travail et enfin, vous l'avez rappelé récemment, de la Défense. Elle a donc géré des portefeuilles énormes avec des budgets tout aussi énormes, commente le quotidien allemand Die Tageszeitung. Pour elle, partir à Bruxelles, c'est un peu aussi un retour aux sources, nous dit le quotidien de Berlin, puisqu'elle est née dans la capitale belge et y a grandi. Son père, un homme politique aussi, qui deviendra ministre-président de Basse-Saxe, y a commencé sa carrière. Alors, Ursula, sa sœur et leurs 5 frères fréquentent à l'époque l'école européenne et elle parle déjà couramment français et anglais. À la tête de la Commission européenne, son élection cependant ne s'est pas faite sans heurts, vous l'avez rappelé, comme et le Süddeutsche Zeitung le souligne également. Le journal évoque un faux départ de la Commission von der Leyen. Pour le quotidien de Munich, la nouvelle présidente doit encore faire oublier sa nomination approuvée de justesse et se montrer plus en phase avec les sensibilités à Bruxelles.
Alors l'autre poids lourd, on en a parlé, c'est la Danoise, Madame Vestager.
Oui, c'est avant tout la femme qui s'est opposée au GAFA, la reine viking partie à l'assaut de la Silicon Valley, selon les termes choisis par le Financial Times. En tant que commissaire à la concurrence, la Danoise, âgée aujourd'hui de 51 ans, était la star de la commission Juncker en imposant la chasse aux abus fiscaux des multinationales. Cette fois-ci, en tant que vice-présidente exécutive, l'ancienne ministre issue d'un parti libéral a pour mission d'adapter l'Europe à l'ère numérique, une position où elle fera usage de son intransigeance légendaire, relève le quotidien britannique. Autre grand nom de cette commission, vous en avez parlé également, c'est le néerlandais de 58 ans, Frans Timmermans, lui aussi vice-président exécutif en charge du Green Deal européen. Déjà membre de la commission Juncker, il était le candidat des socialistes pour prendre la tête de la commission, mais c'est la bête noire des populistes depuis qu'il s'est attaqué frontalement à la Pologne et à la Hongrie, rappelle la Repubblica. Malgré cet échec, ce ministre des Affaires étrangères néerlandais a réussi à conserver un portefeuille prestigieux. Un autre portefeuille prestigieux revient cette fois-ci à l'espagnol Josep Borrell, le mieux taillé pour son poste, selon le quotidien El País. L'économiste catalan de 72 ans, actuel ministre des Affaires étrangères espagnol, est un ardent défenseur de l'intégration européenne. Ingénieur aéronautique polyglotte, il est connu pour son franc-parler, parfois peu diplomatique, mais ce sera lui sans doute utile face à la Russie de Poutine ou l'Amérique de Trump.
Alors il y a un autre visage, celui du nouveau président du Conseil, et c'est un Belge, Charles Michel.
C'est l'ex-premier ministre belge qui est âgé de 43 ans. Il succède au Polonais Donald Tusk, à ce poste qu'on pourrait qualifier de président de l'Europe, entre guillemets. Alors, Charles Michel, c'est le fils de Louis Michel, un ancien député européen et déjà commissaire à l'époque de la commission Barroso. Ça fait 20 ans que Charles Michel fait de la politique, puisqu'il était devenu à 23 ans le plus jeune député du pays, membre déjà du Parti libéral de centre-droit. Il devient en 2014 le plus jeune chef de gouvernement de l'histoire belge. Aujourd'hui, sa nomination est le dernier chapitre d'une longue traversée au cours de laquelle il s'est petit à petit donné l'image d'un médiateur international, selon le quotidien flamand De Morgen. Il s'est appuyé, note pour sa part le journal De Standard, sur ses alliés libéraux de la même génération, comme le néerlandais Mark Rutte, le luxembourgeois Xavier Bettel, mais aussi le français Emmanuel Macron. Alors qu'il semblait impensable, je cite, de voir revenir un Belge à cette haute fonction 5 ans à peine après Herman Van Rompuy. Mais il a réussi à s'imposer, se félicite De Morgen, et à installer, comme il le dit lui-même, son pays dans le cockpit de l'Union européenne.
France Culture, Affaires étrangères.
Christine Ockrent.
Retournons à Ludwigsburg, vous rejoindre, Henrik Outhoorvelde. Au-delà des personnalités, de leurs attributions, il y a évidemment des rapports de force politique, et on l'a dit, c'est une commission sans doute beaucoup plus politique dans sa composition même que les précédentes, et on a l'impression que dans tout cela, la France et l'Allemagne agissent désormais comme un couple, sinon désuni, en tout cas déphasé. Est-ce que, vu d'Allemagne, cette impression est encore plus vive, peut-être, qu'elle ne l'est en France ?
Non, je pense que c'est la même impression. Cette notion de déphasage, elle est vraie. Hein, on pensait en 2017 que deux nouveaux gouvernements sortiraient des urnes en France et en Allemagne et que ça serait peut-être le signe d'un nouveau départ. Bon, il en a eu autre. Autrement, et en ce moment-là, il y a très peu de choses qui vont ensemble, donc le couple franco-allemand, ce fameux couple, est en mauvaise forme, c'est le cas de le dire, mais en même temps, moi je vous dis, on en a connu d'autres, hein, donc mauvaise forme d'aujourd'hui ne peut pas présager l'avenir, donc il suffit que les deux se ressassent et se rendent compte de leur responsabilité commune vis-à-vis des grands défis qui se dressent en Europe, et ça peut repartir, mais pour l'instant on voit mal comment les deux grands pays peuvent être une locomotive. Raison de plus d'ailleurs pour Madame von der Leyen de jouer politique. Vous avez raison, c'est une commission politique, et d'essayer peut-être d'avoir vraiment un pacte avec les grandes forces politiques du Parlement européen, les chrétiens-démocrates, les sociaux-démocrates, les libéraux, les verts, pour gagner un soutien pour son agenda politique qui sera quand même marqué par des grands défis importants pour l'Europe, numérique, Green Deal, climat et défense européenne.
Ce qu'on sous-estime aussi, vu de Paris, où on a l'habitude d'un pouvoir quand même très centralisé, alors on dit Madame Merkel est affaiblie, mais ce que l'on comprend mal, me semble-t-il, c'est que Madame Merkel, à les différences du président français, elle doit quand même consulter son Parlement et un gouvernement de coalition avant de pouvoir énoncer la moindre intention politique.
Oui, tout à fait. Enfin, pour rire, ça ferait pas mal de consulter le Parlement et la base de temps en temps pour chaque dirigeant politique. Mais bon, mais plus sérieusement, il y a toujours deux registres politiques différents qui s'opposent un peu entre la France et l'Allemagne. Vous avez, avec le régime présidentiel, d'une part, ce volontarisme un peu à la hussarde avec Emmanuel Macron, qui dit voilà, moi je suis là, je propose ceci et là, suivez-moi. Et vous avez côté allemand, le pas à pas prudent, beaucoup plus prudent, de dirigeants qui sont toujours contraints de composer avec des partenaires de coalition, avec le Parlement, avec la deuxième chambre, les gouvernements des Länder, qui ont leur mot à dire dans beaucoup de domaines de la politique. Donc, le souci d'un homme politique allemand sera toujours d'assurer une majorité large, d'assurer des compromis, et ces deux registres se heurtent. Souvent, ça s'est fait avec Sarkozy et Merkel déjà, avec d'autres, et donc il faut en tenir compte. Mais je pense que c'est un peu là encore, ces deux registres ont leur raison d'être. Il faut de la volonté politique, comme Macron. Il faut pousser le cap plus loin et avoir développé une stratégie. Et en même temps, il faut aussi ce travail lent et prudent de mise en œuvre et ne pas laisser de côté des pays. Donc il faut aussi assurer des majorités et concrétiser ces stratégies. Donc il faut les deux. Et donc rien ne remplacera, à mon avis, une alliance France-Allemagne pour le meilleur de l'Europe. Plutôt nos deux dirigeants le reconnaissent et reviennent un peu à une politique d'ensemble au lieu du cavalier seul, et mieux ça sera pour l'Europe.
Merci, merci beaucoup Enrico Tervede d'avoir été ainsi au téléphone avec nous. Sébastien Maillard, il y a un thème où véritablement la confrontation a été brutale et frontale entre Madame Merkel et Emmanuel Macron. Il s'agit de l'élargissement donc des candidatures, en l'occurrence de la Macédoine du Nord et de l'Albanie. Il y a eu un veto français brutal, il faut bien le dire. Là, il semble que Paris s'est rendu compte de son isolement au sein même des 27 et que maintenant Paris propose un changement de méthode pour l'élargissement. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en clair?
C'est vrai qu'actuellement, jusqu'à maintenant, il y a des processus en cours. On a 35 chapitres à négocier pour faire un traité d'adhésion qui ensuite doit être ratifié par tout le monde. Et c'est des négociations laborieuses. Il faut l'unanimité pour ouvrir et fermer ces chapitres. Et on a l'impression que c'est un exercice bureaucratique, alors que la France a voulu revoir cela avec 7 grands thèmes et qu'on puisse avancer par ces grands thèmes-là, mais ensuite que ça ouvre déjà à quelques... On rentrerait en quelque sorte par progression, par étape, plutôt que d'un coup, une fois que les 35 chapitres ont été repris intégralement. Donc c'est une nouvelle philosophie. La France, effectivement, a mis son veto pour forcer, en fait, ce débat. C'est une méthode un peu violente, et effectivement... mais finalement, d'autres pays, comme les Pays-Bas, le Danemark et autres, qui n'étaient pas forcément au point à aller mettre leur veto, mais en tout cas, qui étaient ouvert à ce qu'on revoit les choses. En même temps, effectivement, on verra au sommet de Zagreb au mois de mai prochain ce qu'il en est, si effectivement on est prêt à ouvrir les négociations avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, parce qu'il ne faut pas non plus trop les désespérer, ces pays. Les Balkans, on parle d'une commission géopolitique. Si on joue à revoir notre cuisine interne sur la façon dont on veut élargir, pendant ce temps-là, la Chine ou les Russes peuvent dire à cette zone, écoutez, nous, on a beaucoup de choses à faire ensemble.
C'est pas qu'ils le peuvent, c'est qu'ils le font déjà. En Serbie, notamment, c'est spectaculaire. La manière dont les Chinois investissent. Mais donc, les Français ont compris que la manière n'était peut-être pas la meilleure. Et donc, c'est une marche arrière ou c'est un pas arrière, de côté changeons de méthode parce que nous, la méthode, on connaît.
La France dit qu'elle ne s'oppose pas en tant que telle à ce que ces pays un jour rejoignent l'Union européenne, mais qu'il y a une autre façon d'y rentrer et qu'on va peut-être négocier autrement. Donc, c'est un processus de la façon dont on élargit qui va être vu dans les prochains mois, en tout cas d'ici le sommet de Zagreb du mois de mai.
Patrick Martin-Genier, je rappelle que vous enseignez à Sciences Po Paris et à l'INALCO. On voit bien, comme Sébastien vient de nous le rappeler, que ce principe d'unanimité, auquel tiennent évidemment les petits pays, je ne parle même pas des grands, ça c'est évident, mais les petits, c'est quand même un frein absolument majeur. Il est question de façon récurrente à cette idée d'une Europe de cercles concentriques ou de pays qui avanceraient à des vitesses différentes et sur des schémas différents, ce qui est un peu le cas déjà avec la zone euro et Schengen. Mais comment sortir de ce carcan de l'unanimité sur certains thèmes comme ceux qu'on évoquait avec Laurence Daziano, notamment la technologie
C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles quand même on vote à la majorité qualifiée, heureusement, sans quoi on n'avancerait pas. On va parler tout à l'heure de l'immigration, Schengen, on parle également des réformes des Dublin 4, donc sur la politique de l'asile, ça se fait naturellement à la majorité, mais il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut l'unanimité, et notamment la politique fiscale, parce que ça touche à la souveraineté nationale. Et on voit bien aujourd'hui que vous parliez de politique fédérale tout à l'heure, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que si on veut l'équité fiscale, l'équité sociale, et qu'on ne soit pas en compétition permanente qui, entre les pays d'Europe de l'Est, ex-Europe de l'Est, notamment Visegrad, et l'Irlande notamment sur le plan de la fiscalité, il faudra bien un jour qu'on adopte la fiscalité à la majorité et non plus à l'unanimité, parce que c'est contraire au principe de solidarité. Donc par conséquent, il faudra une grande réforme. Est-ce que les pays sont prêts à le faire? J'ai des doutes, notamment en matière de défense européenne. On parle de défense européenne, mais il n'y a pas aujourd'hui de défense européenne. Il y a une concertation sur l'Europe. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que l'initiative européenne d'intervention du président de la République qui a été lancée au mois de juillet, elle est hors traité. Elle est hors traité. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'on ne peut pas avancer de concert sur ce thème. Et que par conséquent, aujourd'hui, l'Europe est bloquée. Et je vois que la Commission, avec Mme von der Leyen, veut veut relancer la réflexion sur la future architecture européenne. Il est donc grand temps, si l'on veut que l'Europe ne meure pas, si on veut qu'elle aille plus loin en termes de politique fédérale, qui sont les meilleures politiques européennes, qu'on mette tout sur la table et qu'on dise maintenant il faut aller plus loin sur la voie de l'intégration européenne. Mais je ne suis pas certain que ce soit dans l'air du temps.
Il y a évidemment un autre thème qu'on n'a pas encore abordé, qui est celui de la politique étrangère.
Oui.
Donc Hamdam nous rappelait à juste titre la personnalité tout à fait sympathique et active de l'Espagnol, Josep Borrell, qui a été d'ailleurs président du Parlement européen il y a une dizaine d'années. Il est maintenant le haut représentant, comme on dit. On sait qu'il n'y a pas de politique étrangère
mais
commune. Et néanmoins, on espère que dans cette commission géopolitique voulue et formulée ainsi par la nouvelle présidente, l'Europe s'affirme davantage. Or, elle est inexistante sur la Syrie, incapable d'avoir une position commune sur le Venezuela ou même Hong Kong.
Donc, avec des sanctions communes pour la Russie, par
contre. Oui, quand même. Des sanctions communes à propos de la Crimée. Oui.
Mais on voit bien que le problème de la Crimée n'est toujours pas réglé, de toute façon.
Il va y avoir une conférence, donc, à Londres.
Prochainement. C'est vrai que le problème de la politique étrangère, c'est qu'il n'y en a pas. Hein, il suffit d'aller voir les traités pour voir que si on veut progresser en matière de politique étrangère, il faut l'unanimité. Toujours, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Or, on voit bien qu'entre la France et l'Allemagne, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Vous parliez du Venezuela tout à l'heure, c'est pas évident. Hong Kong, qu'est-ce qu'on va faire demain si les Chinois décident d'investir et de remettre l'ordre à Hong Kong? On vient de voir que les États-Unis, le Sénat a voté une résolution à l'unanimité de soutien au mouvement démocratique de Hong Kong. Ça, c'est une grosse difficulté. Et donc aujourd'hui,
c'est une difficulté pour la Maison Blanche.
Ouais, voilà. Et on voit bien aujourd'hui qu'on a haut représentant pour la sécurité extérieure, la politique étrangère commune, mais qui n'est pas illustré par quoi que ce soit. Rappelez-vous Kissinger. Il disait quoi, l'Europe? Quand j'appelle l'Europe, c'est quel numéro de téléphone?
Oui, mais ça, c'était il y a 40 ans. Donc, on peut espérer que maintenant...
on peut espérer, sauf
le
que...
Le même Kissinger, qui est toujours actif, j'ai vu qu'il était d'ailleurs à Pékin il y a quelques jours et qu'il a dit à quel point il était important que les relations entre Pékin et Washington s'améliorent.
Voilà, et c'est toute la difficulté. On doit illustrer, on parle d'un président du Conseil européen, du président de la Commission européenne, le haut représentant pour l'Union européenne. Il y a donc des difficultés pour savoir qui aujourd'hui peut illustrer une politique étrangère commune. Et M. Borrell est certainement quelqu'un de très compétent. Il est espagnol. Je vous rappellerai aussi que, par exemple, en matière de politique des droits de l'homme, eh bien, l'Union européenne n'est pas très présente, malheureusement. On parle des grands contrats avec la Chine. C'est une dictature terrible ce qui se passe en Chine. Et nous ne sommes pas très lisibles en matière d'Union européenne, en matière des droits de l'homme. Alors qu'il ne faut jamais l'oublier, l'Europe, ce n'est pas uniquement un vaste marché, c'est aussi la défense de valeurs, de la démocratie, de la tolérance. Et là, on ne sommes pas capables d'afficher une vraie politique en matière de droits de l'homme, si ce n'est quelques sanctions par-ci, par-là. Donc il y a un vrai défi pour l'Union européenne demain.
Mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu une telle controverse quand un portefeuille confié en l'occurrence à un Grec qui couvre en fait la question migratoire a été intitulé protection du mode de vie européen. Ça a été modifié, donc on ne parle plus de protection du mode de vie européen, mais de promotion du mode de vie européen, ce qui est quand même une meilleure formulation, et en fait une formulation tout à fait justifiée. Il y a un mode de vie européen, il y a effectivement une économie sociale de marché, comme le disait d'ailleurs Madame Vestager dans son entretien au magazine Le Point.
Tout à fait.
Et les enjeux migratoires, vous le rappeliez vous-même, Patrick Martin-Genier, c'est un enjeu majeur pour toute l'Europe.
Alors, c'est un enjeu majeur si on ne veut pas que le populisme nationaliste continue à grimper en Europe. Mais l'Europe, avant même, avec M. Juncker, avait décidé, d'ailleurs on le verra dans les propositions budgétaires qui vont venir, de tripler les crédits consacrés à la protection des frontières et également d'augmenter les effectifs de l'agence de garde-côtes frontières, ex-Frontex, à 30 000 personnes, à 10 000 personnes dans le cadre de ce mandat. Donc il faut que l'Europe effectivement le fasse. Il faut aussi une politique commune de l'asile, de l'intégration. Et vous avez vu encore récemment que les pays du groupe de Visegrad ont bloqué la réforme du droit d'asile. C'est pour vous montrer que la difficulté va être immense et que la tâche de Mme von der Leyen ne va pas être facile parce qu'il va falloir des négociations également au niveau du Conseil des ministres.
Laurence Daziano, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a un modèle européen qui est très différent du modèle nord-américain, ne parlons même pas évidemment du modèle chinois. Par rapport à ce modèle, quels sont les atouts que peut sur lesquels peut insister cette nouvelle commission, et notamment pour renforcer la cohésion de nos sociétés qui est mise à mal, enfin plus d'ailleurs dans les pays du sud de l'Europe que dans les pays du nord de l'Europe. Est-ce qu'il y a, selon vous, des zones sur lesquelles véritablement les projecteurs devraient être braqués?
Alors, c'est vrai que l'Union européenne, c'est une force formidable. D'abord parce qu'on est 500 millions, donc c'est 500 millions de consommateurs. Et puis, on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, le défi des élections européennes, il a bien montré la défiance des Européens par rapport à l'Europe. Et ça s'est vu dans le morcellement du Parlement européen. Mais pourquoi?
Pardon, la défiance, mais en même temps, un intérêt beaucoup plus grand. Alors, parce que trop souvent, les médias, et notamment en France, disent « Oh là là, quelle horreur, quelle ennui ». Nuit l'Europe, on a vu que là, il y a eu un taux de participation plus élevé que les fois précédentes, 52% en moyenne, et avec beaucoup plus de jeunes qu'auparavant. Donc,
tout à fait, mais un Parlement qui est pour le coup beaucoup plus morcelé, donc qui est aussi le reflet de ce qui se passe dans les pays, avec cette vague plus populiste, plus protectionniste, plus nationaliste, qui est complètement...
Mais aussi une vague plus verte, donc il y a des reflets de couleurs différentes.
De reflets différents. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est de montrer que l'Europe peut vraiment mener des politiques, mais qui sont au niveau européen. C'est-à-dire qu'il faut rendre aussi... Il y a un principe en Europe qui est la subsidiarité. Il faut rendre au principe...
Alors expliquez ce que c'est, la subsidiarité.
La subsidiarité, c'est que les points, les politiques qui peuvent être traitées à un niveau local restent à un niveau local, et qu'on ne traite au niveau européen que vraiment ce qui peut concerner tout le monde. Et donc, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la politique de l'immigration, la politique de la concurrence, la politique sur les infrastructures, la politique de défense qu'on a citée, ça, ce sont des politiques où quand on parle aussi, on a dit que c'était plus vert, donc la politique de l'environnement avec le défi climatique.
Et ça c'est une priorité. Hein. Dans le dernier budget voté par la commission sortante, on voit que 24% des crédits vont à l'environnement.
Voilà, donc ce sont des sujets qu'il faut traiter au niveau européen. Après, il ne faut pas non plus se tromper dans les politiques, notamment quand on dit la politique verte. S'il faut lutter contre le CO2, la France n'est pas la première émettrice de CO2 non plus. Quand on voit les cartes, il y a une nouvelle application qui est sortie, où on voit les couleurs des pays selon leur émission de CO2. Vous voyez, la France, elle est toute verte. Là, l'Allemagne en matière de CO2, l'Allemagne commence à être orange et la Pologne est rouge carmillon.
C'est le charbon.
Voilà. Donc là, on a besoin d'une vraie politique européenne de l'énergie. C'est quel mix énergétique en Europe, de manière à ce que on ait une vraie politique européenne au niveau des infrastructures. J'y reviens parce que c'est important et parce qu'on ne met pas assez l'accent dessus. Tout ce qui est industrie de réseau, tout ce qui est port, tout ce qui est électricité. Enfin, si on veut pas non plus, on parlait entre les modèles américains et chinois. Il faut quand même voir que dans le domaine de l'électricité, le transport d'électricité qui est quand même important. Le réseau grec est racheté par les Chinois. Une partie du réseau italien a été rachetée par les Chinois. C'est State Grid. State Grid en Chine, c'est 1,5 million de salariés. L'Estonie, c'est 1,2 million de personnes. Donc State Grid à lui seul est plus grand qu'un seul pays européen. Alors certes, un petit pays européen, mais quand même plus grand. Et ils ont aussi racheté une partie du réseau portugais.
Et donc, il faudrait de nouveaux outils. On en revient à cette question unanimité, majorité qualifiée, en particulier décider d'investissement direct étranger dans les économies européennes. Hélas, le temps nous est compté, comme tous les samedis, à cette heure-ci. Merci à vous tous de nous avoir éclairés ainsi sur ces chantiers européens. Laurence Daziano, vous avez publié chez Armand Collin un ouvrage sur les pays émergents, approche géo-économique. Patrick Martin-Genier, auteur de « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Excellent titre, il y a un point d'interrogation, mais je crois que vous avez répondu. Merci. Sébastien Maillard, vous avez, vous, publié « Faire l'Europe dans un monde de brut », c'était chez Fayard en 2017. Avec Enrico Letta. Enrico Couter-Védé, vous avez publié un livre qui vient de sortir en Allemagne, pas encore en France, sur les relations franco-allemandes. Je remercie bien sûr Tony Blair de s'être prêté à cet exercice et Michel Zotowski qui, comme d'habitude, a traduit ses propos avec brio. Merci à Hamdam Mostafavi de Courrier International, à Luc-Jean Reynaud, à la réalisation réalisation, Jacques Hubert à la technique, Hugo Boursier a préparé cette émission et comme chaque samedi, vous avez rendez-vous avec Hervé Gardette. Très bon week-end, à samedi prochain.